Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. De la guerre franco-prussienne en 1870 à la naissance de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient a connu une mutation extrêmement rapide marquée par la chute de l'Empire ottoman et l'avènement par étapes de pays comme la Turquie ou l'Iran. Un monde multipolaire et hiérarchisé dont l'étude des sociétés, des économies et des cultures permet de dépasser la question d'Orient et d'envisager l'avenir. Un travail de recherche et de synthèse auquel nous convie Philippe Petria, co-auteur d'une histoire moderne du Moyen-Orient, édité aux publications de la Sorbonne. À suivre également avec Michel Paul à Jérusalem, le fort ralentissement contre toute attente de la migration de juifs français vers Israël, et avec Alexandre Bouchanti au Caire, les nouvelles découvertes archéologiques à Abydos en Égypte, un lieu particulièrement apprécié des amateurs de science-fiction et d'OVNI.
Orient Hebdo sur RFI.
Philippe Petria, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du monde arabe contemporain depuis la fin de l'époque ottomane, ainsi que de l'histoire de la péninsule arabique. Vous co-signez avec Olivier Bouquet et Pierre Vermeuren cette histoire du Moyen-Orient de l'Empire ottoman à nos jours aux publications de la Sorbonne. Un livre en trois parties, la première consacrée à l'Empire ottoman lui-même, la dernière à la période contemporaine et entre les deux, la seconde, c'est la vôtre, au Moyen-Orient de 1870 à 1950. Alors, pourquoi démarrer en 1870 ? 1870, pour nous, c'est plutôt la guerre franco-prussienne.
Oui, c'est la guerre franco-prussienne, mais pour l'Empire ottoman, c'est aussi une époque très importante d'apogée des réformes. Paradoxalement, on entre dans une époque où c'est le sultan Abdulhamid II, dernier grand sultan de l'Empire ottoman, dernier grand calife aussi, puisqu'il va beaucoup tenir à son titre de calife, qui à la fois promulgue la constitution ottomane, qui est une sorte d'achèvement et de débouché des grandes réformes du 19e siècle de l'Empire ottoman, qui met en place donc en fait une sorte de monarchie constitutionnelle dans l'Empire ottoman, avec un parlement très actif d'ailleurs, et qui, un an plus tard, suspend la constitution. Et donc on a une sorte de modernisation qui débouche sur ces... sur un produit démocratique et aussi un retour autoritaire. C'est donc une époque de charnière, en fait, pour l'Empire ottoman et le Moyen-Orient en général.
Mais vous soulignez quand même que dans les villes soumises à l'autorité du sultan d'Istanbul, on assiste à un développement urbain largement inspiré d'ailleurs du travail du baron Haussmann à Paris.
Oui, très fort. Les villes reproduisent dans leur paysage même, dans leur urbanisme, cette effervescence de modernité qui touche l'ensemble de l'Empire ottoman, mais aussi l'Empire Qadjar, dans une moindre mesure pour les villes, qui est affecté et très influencé par ce que les élites voient en Europe quand elles voyagent, notamment à l'occasion des expositions universelles ou des fois internationales, mais aussi par un urbanisme et des styles assez propres, le style néo-ottoman par exemple, que nous considérons un peu kitsch, mais qui est un vrai style à part au Moyen-Orient.
Est-ce que ces réformes, est-ce que cet essor touche l'ensemble des populations de la
région?
Oui,
elles touchent l'ensemble de populations, en tout cas celles sur lesquelles on est le mieux informé, et donc ça veut dire que c'est souvent une minorité, c'est les populations des villes, en tout cas les gens qui écrivent, ceux qui lisent aussi, on en sait beaucoup moins pour les populations des campagnes rurales. Or, en 1900, les trois quarts de la population du Moyen-Orient, au bas mot, sont des populations rurales, qui sont donc un peu loin des yeux des administrations et donc des sources pour les historiens.
Mais toutes les régions, par exemple l'Égypte ou le Liban, par exemple, se réforment et se modernisent de la même façon?
Tout à fait. Et vous avez même cité d'ailleurs là deux pays qui sont même plutôt en avance, en fait, dans les réformes. Mohamed Ali est quasiment en avance sur celui qui reste son souverain, le sultan ottoman, puisque Mohamed Ali est officiellement un vassal de l'Empire ottoman. Et le Liban est aussi une société qui est aussi en avance pour des raisons particulières de démographie, de religion aussi, notamment la composante maronite, hein, ou l'émigration libanaise à l'extérieur fait qu'on a des processus de transformation démographique, par exemple, hein, ou même culturelle, qui sont plus avancés au Liban que dans les pays voisins.
Et à cette époque, il y a aussi de forts mouvements de population qui concernent majoritairement, évidemment, les populations musulmanes, mais également une première vague de migration juive vers la Palestine.
C'est le début des premières alias, en réalité, hein, des montées vers Jérusalem et vers l'État juif, et en particulier la seconde alia, qui est la génération des fondateurs, hein, les années 1880 jusqu'aux années 1900. On voit arriver notamment David Ben-Gourion. C'est la génération socialiste, la génération aussi très nationaliste, qui va fonder l'État d'Israël.
Donc, sur cette région, à cette époque, souffle une sorte de un vent de réforme, du Maroc d'ailleurs jusqu'à l'Afghanistan. Elle concerne essentiellement l'État. Chacun veut avoir son finalement son petit État autonome.
Oui, elle concerne
son armée.
Elle concerne l'État, notamment l'armée, parce que l'armée est un des premiers sites de modernisation. Les premières réformes souvent portent sur l'armée, ce qu'on appelait à l'époque, d'ailleurs dans l'ensemble du Moyen-Orient, le Nizam Ijedid. Mais c'est pas que l'État, puisqu'en fait le contexte culturel, intellectuel, effervescent, donc encore une fois à l'époque, participe largement à ces réformes de l'État. Et donc on constate aussi des réformes culturelles, modernisation de la langue, à la fois du persan comme de l'ottoman, qui va devenir le turc moderne un petit peu plus tard, et puis de l'arabe avec cette fameuse Narda, hein, que nous connaissons mieux en France.
Oui, la Renaissance.
La Renaissance.
Par copie, en quelque sorte, ou réplique de la Renaissance française, c'est cela?
Oui, mais avec une petite tonalité particulière, qui est qu'ils ont à la fois un modèle européen, le roman, le théâtre, etc., et puis un héritage culturel qui n'a rien à envier à l'Europe, et que justement, il s'agit de ressaisir, de remoderniser, pour recréer un élan dans les sociétés, donc arabophones, on a l'équivalent dans les sociétés turcophones et arabophones, pour justement faire concurrence à l'Europe, c'est-à-dire à la fois s'en inspirer, mais aussi montrer qu'on a tous les moyens, toutes les racines nécessaires pour atteindre le même stade de civilisation. C'était le mot qu'on employait à l'époque.
Philippe Pétria, les sociétés impériales font également face à la révolution à cette époque, aussi bien d'ailleurs en Perse que dans la partie arabe de l'Empire ottoman.
Oui, c'est aussi une époque de révolution, même si à l'époque on n'aimait pas trop ce terme de révolution. Il n'est pas tout à fait assumé, on emploie d'autres termes. Par exemple, on met l'accent sur les termes de liberté dans l'Empire ottoman. François Georgeon, un grand historien de l'Empire ottoman, rappelle régulièrement à ses auditeurs, dont je fais partie, que on pouvait dire en Turquie, je suis né sous la liberté ou à l'époque de la liberté, plutôt pour dire qu'on était né en 1908. Et non pas, on ne disait pas qu'on était né à l'époque de la révolution. Le terme n'est pas tout à fait assumé. Or, mais c'est vraiment des révolutions qui se produisent, à la fois politiquement, un changement des institutions de l'État, assez radical, hein, la mise en place d'un parlement, la limitation des pouvoirs du souverain, et un changement aussi qui touche une grande partie de la société, en tout cas des élites, qui se convertissent à de nouveaux thèmes, à de nouveaux slogans, à de nouveaux objets de la réflexion politique, et dont la modernité de l'entre-deux-guerres et jusqu'à aujourd'hui est largement le produit.
Alors justement, la Première Guerre mondiale arrive, 1914, est-ce que cela change beaucoup pour la région?
Ça change beaucoup de choses, parce qu'en fait le cadre territorial change tout pour ces intellectuels de la région. Tout d'un coup, on se met à habiter dans des pays qui ont des frontières limitées, avec des États ou des institutions d'État qui ont un pouvoir limité, et les cultures nationales doivent être recréées du tout au tout. Et c'est un changement qui est beaucoup plus progressif qu'on ne l'a cru, puisque dans les années 1920, beaucoup de révoltes, notamment dans les anciens pays de l'Empire ottoman, les pays arabes désormais, en appellent encore au modèle de l'Empire ottoman jusqu'au milieu des années 1920. C'est-à-dire à quel point l'espace culturel qu'était l'Empire ottoman, mais on trouve la même chose pour l'Empire Qadjar, avait été intégré par ces populations.
L'Empire Qadjar, c'est-à-dire l'Empire Perse.
Voilà, l'Empire Perse, tout à fait, qui viendra à l'Iran après 1935.
Alors vous disiez justement que cette période autour de 1930, c'est finalement le ferment des nationalismes en Turquie, mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, en Égypte, Hassan al-Banna fonde les Frères musulmans à la fin des années 20. Quel est le but de cette confrérie à cette époque-là?
C'est intéressant parce que vous avez évoqué le terme de confrérie qui est plutôt disputé par les historiens. Est-ce que c'est une confrérie? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est un mouvement nationaliste? Hassan al-Banna clairement s'inspire des structures des confréries. Il en faisait partie. Il était lui-même soufi, au moins de deux confréries que l'on connaît à l'époque. Mais il veut aussi créer un parti moderne, c'est-à-dire structuré avec une hiérarchie. Et d'ailleurs, il fera une hiérarchie qui sera très soumise au chef, hein, puisqu'il est le guide suprême. Et on retrouve ça encore aujourd'hui dans l'organisation des Frères musulmans, ce qui donne une certaine solidité, mais aussi un aspect autoritaire. C'est aussi un parti nationaliste qui veut mettre les Anglais dehors et plus globalement mettre l'influence européenne hors de ce pays musulman.
C'est l'apparition pour la première fois d'un islam politique, comme l'on dit.
Oui, en fait, l'islam politique, on pouvait déjà le voir apparaître à la fin de l'Empire ottoman dans ses réformes, dont beaucoup d'ailleurs de critiques disaient qu'elle n'était pas assez islamique et dont certains, comme les jeunes ottomans, voulaient qu'elle soit plus islamique, plus en phase avec la culture islamique. Donc contestée parfois des réformateurs taxés d'européanisme ou de mimer, de singer l'Occident, sans égard pour ce qui constitue la masse critique quand même du Moyen-Orient, une population musulmane très largement. Donc l'islam politique, en fait, au sens de utilisation politique de l'islam, apparaît déjà dans les débats politiques des réformes. Et les Frères musulmans sont d'une certaine façon aussi un produit du réformisme musulman très vif au XIXe siècle. C'est un mouvement nationaliste qui n'hésitera pas dans les années 1930 à aller faire le coup de feu contre les Britanniques le long du canal de Suez et même aussi parfois contre les implantations sionistes en Palestine auxquelles les Frères musulmans vont participer de façon croissante.
Alors Philippe Pétria, nous arrivons à la fin de la période que vous étudiez dans cet ouvrage « Histoire du Moyen-Orient, de l'Empire ottoman à nos jours », la sortie de la Seconde Guerre mondiale. L'année 48 est-elle un moment clé de cette période ?
L'année 48, c'est clairement une année comme l'année 1936 auparavant où il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle est clé, mais c'est une année où beaucoup de générations qui sont arrivées à la maturité politique dans l'entre-deux-guerres doivent faire face à des choix déterminants pour le Moyen-Orient. Évidemment, on pense à la création de l'État d'Israël, qui est un véritable défi pour les pays arabes, mais aussi pour les sociétés palestiniennes, qui d'ailleurs réagissent de façon très dispersée, même si elles réagissent avec parfois de la violence, et on les comprend. Mais c'est aussi une année très forte en Irak aussi, c'est l'année de la Wasba, une année de révolte aussi en Irak en 1948. C'est donc une année à de multiples égards très importante, qui va voir d'ailleurs les premiers coups d'État après la Seconde Guerre mondiale, vite éclatée dans le Moyen-Orient.
Et on assiste à un effondrement donc des élites des indépendances, les anciens on va dire, et partout les pouvoirs se font plus autoritaires, qu'ils soient d'ailleurs royaux ou républicains, à l'exception peut-être de la Turquie.
À l'exception de la Turquie qui paradoxalement, au moment où les États autoritaires s'affirment dans le monde arabe, mais aussi dans l'Iran par la vie progressivement au cours des années 50, la Turquie entame une petite période, une dizaine d'années à peine, de pluripartisme avec l'arrivée du Parti démocrate, notamment dirigé par Adnan Menderes, mais il y avait beaucoup d'autres autour de lui, Fouad Koprulu, Celal Beyar aussi, qui étaient des anciens du Parti républicain de Mustafa Kemal, même si eux-mêmes, à la fin des années 50, entament une dérive autoritaire qui précipite le coup d'État de 1960.
Mais est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui cette parenthèse turque est en train de se refermer avec la politique actuelle de
Erdogan? C'est le grand problème de la Turquie, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir affaire à des parenthèses de démocratie entre des coups d'État. Quel est le devenir notamment de ce parti AKP qui nous a tant fascinés dans les années 2000 lors de sa prise du pouvoir? Est-ce que c'est la même évolution que l'on va constater que celle du Parti démocrate auparavant? Est-ce qu'on va avoir affaire encore à des coups d'État? La leçon de 2016, c'est que le coup d'État mené par les militaires n'a pas réussi en Turquie. Là où les militaires avaient réussi à de multiples reprises et régulièrement en Turquie à mettre fin à des épisodes de pluripartisme qui auraient pu mettre en cause la laïcité ou les tenants du kémalisme. Ce n'est pas arrivé en 2016 et ça montre quand même qu'il y a une évolution de la société derrière l'AKP, que l'on peut dire autoritaire, islamiste, etc., qui fait que la Turquie a profondément changé depuis les années 1950, au point de refuser un coup d'État.
Merci Philippe Pétria.
Merci Eric Bataillon.
Historien spécialiste de l'Empire Ottoman, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je renvoie à votre livre, Histoire du Moyen-Orient, de l'Empire Ottoman à nos jours, aux publications de la Sorbonne, un livre coécrit avec deux autres historiens, Olivier Bouquet et Pierre Vermeuren.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour parler de sujets qui ont marqué la presse ces dernières semaines. Michel, nous évoquions avec notre invité Philippe Pétria il y a un instant les premières migrations de juifs à la fin du 19e siècle vers ce qui n'était pas encore l'État d'Israël. Alors depuis 2012, on constatait une forte augmentation de cette immigration de juifs de France vers Israël. Il semble toutefois que les prévisions liées aux attentats de Paris l'an dernier, puis Nice et Rouen cet été, ne se soient pas réalisées.
Souvenez-vous, Eric, le Premier ministre israélien lance un appel aux Juifs de France pour qu'ils fassent leur alia, qu'ils viennent s'installer en Israël. Avec l'aide de Dieu, nombre d'entre vous arriveront chez nous, à la maison. Israël vivra, proclame Benjamin Netanyahou à la grande synagogue de Paris. C'était le 11 janvier 2015, tout juste deux jours après l'attaque de l'hypercacher de la porte de Vincennes, qui a fait 4 morts et 4 blessés graves. Effectivement, 2015 a vu une augmentation de l'immigration en provenance de France. 7900 juifs de France sont venus s'installer en Israël.
Et qui sont ces immigrants, Michel? Quel est leur profil?
Difficile à définir. Il y a bien sûr ceux qui viennent en Israël pour motifs idéologiques, religieux et sionistes. C'est probablement la majorité. Très peu en tout cas disent ouvertement qu'ils ont quitté la France en raison des attentats à caractère terroriste. Yigal Palmor est le porte-parole de l'Agence juive, l'organisme chargé de gérer l'immigration, et il pense que cette immigration en provenance de France a ses propres caractéristiques.
50% de ces nouveaux immigrants, ce sont des familles, et puis le reste se divise en quantité égale entre retraités et étudiants. Donc c'est surtout une alia, une immigration familiale, et c'est une caractéristique particulière de l'immigration française en Israël.
Mais parmi ces immigrants, il y a aussi bon nombre de personnes qui acquièrent la nationalité israélienne, profitent des aides à l'immigration octroyées par le gouvernement israélien, mais qui, en fin de compte, ne font que passer des vacances en Israël, au soleil et près de la mer.
Et pour l'année 2016 qui s'achève, quels sont les chiffres, Michel ?
Eh bien, Eric, on peut parler d'un ralentissement spectaculaire de l'Alia de France pour l'année qui s'achève. Tout juste 5000 immigrants pour les responsables de l'intégration en Israël. C'est un constat d'échec. Explication d'Igal Palmore.
Il est très difficile de mettre le doigt sur un facteur ou sur un élément isolé. Il doit y avoir des éléments économiques, des éléments peut-être familiaux, des éléments politiques. Il est très difficile de savoir ce qui motive les gens pour venir, pour attendre avant de faire le pas ou pour décider d'aller ailleurs ou de rester même.
Il y a également les migrants qui, en fin de compte, reviennent en France.
Pas de statistiques officielles à ce sujet. L'agence juive en estime que c'est une décision personnelle. Ceux qui repartent ne se manifestent pas. Et c'est souvent, dit-on, parce qu'ils ne réussissent pas à trouver du travail en Israël que les immigrants repartent. Et aussi parce que les allocations sociales en Israël sont très loin de ce qui existe en France.
Une situation qui pourrait changer à l'issue de l'élection présidentielle de cette année. Merci Michel. Alexandre, vous avez choisi de nous parler du site pharaonique d'Abydos en Haute-Égypte, lequel n'a pas fini de surprendre les archéologues. Le ministère des Antiquités a annoncé récemment la découverte de vestiges d'une cité et de tombes vieilles de 5300 ans, une découverte qui éclaire la période prédynastique égyptienne.
Les archéologues ont trouvé une quinzaine de tombes en briques, ainsi que des poteries et des outils en pierre. Elles devraient appartenir à de hauts fonctionnaires en charge de l'édification des premières sépultures royales. La cité et les tombes découvertes à Abydos datent de près d'un millénaire avant la construction des premières pyramides. Une période où régnaient des pharaons aux noms exotiques comme le roi Scorpion, le roi Lion ou le roi Faucon. Des pharaons qui avaient fait d'Abydos la première nécropole royale de l'Égypte antique. Une période où l'unification de l'Égypte se faisait progressivement et où les hiéroglyphes prenaient forme en tant qu'écriture combinant idéogramme et phonogramme, c'est-à-dire les images et le son.
Abydos, c'est aussi le site des premières recherches archéologiques de l'histoire, des recherches effectuées sous les pharaons, Alexandre.
Effectivement, les prêtres d'Abydos prétendaient détenir la plus précieuse des reliques, la tête du dieu Osiris, qui, avec Isis et Horus, ont formé la première sainte trinité de l'histoire. Cette précieuse relique a été recherchée durant des siècles au cours de la période pharaonique. Selon la mythologie égyptienne, Osiris, inventeur de l'agriculture et de la religion, régnait sur l'Égypte avec sa femme Isis avant d'être tué par son frère Seth. Son corps dépecé est reconstitué par Isis qui en enfante Horus. Horus venge son père qui ressuscite. Imaginez un peu les miracles qu'une telle relique aurait pu accomplir entre les mains d'Indiana Jones.
Mais Abydos, c'est aussi le site de tous les passionnés d'OVNI.
Les ufologues sont en effet convaincus que la preuve de l'origine extraterrestre de la civilisation pharaonique se trouve dans le temple de Séti Ier. Sur un linteau du temple figurent des hiéroglyphes où il croit voir un hélicoptère, un char d'assaut et un aéronef. Il est vrai que la ressemblance est saisissante, mais les égyptologues expliquent qu'il s'agit d'un palimpseste, c'est-à-dire la réécriture sur un texte déjà écrit. Les images ne seraient donc que le fruit du mélange de deux hiéroglyphes superposés. Une explication loin de convaincre les mordus. Une soucoupe volante, c'est tellement plus passionnant qu'une simple soucoupe.
Il faut bien rêver un peu. Merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par François Porcheron, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio, www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bon réveillon, on se retrouve samedi prochain en 2017. Tout de suite, un nouveau journal.
RFI, la sélection.